Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.
Éric Godard, un homme de taille moyenne, mince, cheveux sortants, usage quelconque, lunettes, monture métal, habillé d'un costume gris. Gola lui demande, tu peux entrer? Oui, entre. L'appartement est un F1 avec un lit. À une place défait, une table bourrée de livres de poche, une chaise et un fauteuil défoncé, plein de linge en vrac. Eric demande, qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que tu veux? Je croyais que j'allais plus te revoir. Tu es rentré dans le système, te voilà bourgeois du cinéma. Nicolas lui dit agacé, arrête, tu savais, ça avait été que de moi, je n'aurais pas présenté mon film. Et puis, je suis bien emmerdé. J'ai peur de faire un deuxième film. Eric lui dit, tu as raison, t'attends au tournant pour te défoncer. Colin lui dit, je m'en doute, c'est pour cela que j'ai peur. D'ailleurs, que je fasse n'importe quel film, vous me défoncerez. Parce que j'ai fait un film qui a eu du succès et gagné une palme. Eric lui dit, dans un faux festival de bourgeois. Colin lui répond, de toute façon, tous les festivals sont bourgeois. Bon. Arrêtons de parler de tout ça. J'ai écrit un scénario, je me demande si c'est bon. Alors je suis venu te demander conseil. Tu as un scénario ici? Oui? Eh bien, lis-le-moi.
Eric enlève le linge qui se trouve sur une chaise. Il le met à terre. Assieds-toi ici. Il s'assoit sur la chaise. Il colore. Et Eric s'assoit sur une autre chaise. En face de lui.
Et Nicolas lit son petit scénario. Une fois qu'il l'a lu, Eric lui dit, Le scénario me plaît. C'est vrai ? Oui, mais ce n'est pas pour toi. Donne-moi ton scénario. Je sens que ça, c'est pour moi. Je pourrais en faire mon premier film. Nicolas hésite et se dit que s'il fait le film, il va l'éreinter et que toute la critique qui est sous son emprise de la gauche caviar, il est entre ses mains. Il pourrait ne pas donner le scénario, mais il a besoin d'argent. Je te vends le scénario, Eric lui dit. Bien, tu recevras un pourcentage de la recette. Je n'ai pas d'argent. D'accord. Puis Eric lui demande. Tu connais un producteur ? Non. Menteur ! Celui de ta copine. J'ai rompu avec elle. Quel con ! Mais si tu veux, je peux aller le voir. Voilà. Il a été obligé, c'est de donner le scénario à Eric. Parce que s'il avait fait le film lui-même, Eric l'aurait éreinté et la gauche caviar aussi. C'est un peu une vente forcée, une vente ou plutôt un cadeau forcé. Il va voir le père de Martine à son bureau. Le père le reçoit et lui dit « J'ai accepté de vous recevoir, c'est parce que ma fille m'a dit que vous aviez rompu, mais que vous étiez resté bons amis. Je respecte cette rupture, mais je vous aimais bien comme gendre. » « Merci monsieur. Alors, vous êtes venu me voir pourquoi ?»« Voilà, j'ai un ami qui aimerait faire un film, son premier film. Il se nomme Éric Gollard. Je croyais que c'était vous que vous vouliez faire un film. » Il haut ses épaules et dit « Je veux bien recevoir ce monsieur, mais ne serait-ce pas ce virulent critique fou de Gollard ?»« Oui, monsieur. Là, je ne sais pas. » »« C'est moi qui ai fait le scénario, monsieur, et toute la gauche caviar sera derrière le film, même s'il ne voit rien. » Bien, bien, très bien, puisque c'est comme ça. Et vous, pas de film ? Non, pas pour le moment. Le producteur et metteur en scène se mettent d'accord. On choisit des acteurs inconnus pour les rôles. Celui qui jouera le rôle du jeune homme est un jeune comédien décontracté, pas très beau. Il ressemble à un voyou. Le film se tourne comme il peut. Pas beaucoup d'argent, équipe réduite, décor naturel, et quoique le metteur en scène crie à tueur et à travers qu'il ne veut pas de studio, et critiquant les films qui se font en studio, il tournera quelques scènes en studio, mais ne le dira pas. La mise en scène se fait avec des yakas du metteur en scène, et même certaines fois, on ne le voit pas de la journée. Quant aux acteurs, surtout celui qui joue le rôle principal, il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire le pantin. Le film est fini, malgré tout. Il est présenté au public avec beaucoup de réserves. Il a du succès, pas à cause du scénario qui a été, au fur et à mesure du tournage, perdu, mais à cause de l'acteur principal qui joue d'une façon tellement décontractée que cela le rend sympathique au public. Pendant ce temps, Nicolas cherche toujours un sujet à tourner. Cela lui donne du cafard, ne peut rester en place et fait de longues marches nerveusement. Se sent incapable de tourner et a peur de ne plus avoir d'idée de film. Malgré tout, il rêve de tourner. Mais il sait que si lui arrive de tourner, surtout avec des personnes qu'il ne connaît pas, il risque de ne pas y arriver. Des fois, il marche avec Frédéric dans les rues au hasard et lui dit: ce qui m'énerve, c'est que je ne suis pas libre de choisir un sujet. Frédéric lui demande: pourquoi? Eh bien, il faut que ce soit tournable, c'est-à-dire dans les moyens, avec peu de comédiens, techniciens et lieux. Ah, les tournages intérieurs, grande difficulté. Il faut trouver de grandes pièces bien isolées pour le son. Je rêve d'avoir un studio. Donc il faut que je trouve une histoire simple et tournable, mais malgré tout intéressante, avec pas beaucoup de lieux, peu de personnages. C'est difficile, car lorsqu'on invente une histoire, on est pris par son sujet et on oublie que c'est à filmer. Frédéric lui dit: oui, je vois. J'ai soif. Allons boire un jus de tomate. Ils sont entrés dans un café et commandent leur boisson. Le café est presque vide. Nicolas continue à parler. Tu sais, c'est triste de se sentir obligé de supprimer des scènes ou de les rectifier, alors qu'on préférerait les garder. Garder l'histoire telle qu'elle. Qu'on en a écrit, remarque, ferait un très bon roman ou nouvelle sans rectification. Frédéric lui dit: eh bien, écris des romans. Nicolas soupire et lui dit: oui, et le cinéma, c'est tout de même merveilleux. Il continue à chercher un sujet de film. Pour simplifier la chose, il écrit une histoire de personnages, un jeune homme et une jeune fille. Le jeune homme sera Frédéric, et pour la jeune fille, il mettra une annonce. Une fois que le scénario est fini, il va le faire lire à sa sœur, qui le trouve très beau et lui dit: je connais une jeune fille qui fera très bien l'affaire. Et le lendemain, sa sœur va chez lui avec son ami.
Il ouvre la porte et voit sa sœur avec une jeune fille, grande, mince, les cheveux tombants chantins, de grands yeux bleus, le regard souriant, et porte une robe crème. Nicolas est ébloui par la jeune fille. Bonjour, entrez, je vous en prie. Elle entre. Il les mène au salon. Entrez. Et les fait asseoir dans des fauteuils. Asseyez-vous.
Les fauteuils sont près d'une table basse. Sa sœur lui dit: je présente Rose. C'est une amie d'université qui rêve de faire du cinéma. Nicolas dit à la demoiselle: vous êtes très belle, je suis sûr que vous ferez l'affaire. Nous allons faire un bout d'essai demain à 9h. Vous êtes libre? Oui. Nicolas prend un bout de papier qui est sur la table, écrit l'adresse et le lieu. Voilà, vous devez vous rendre. Puis il leur demande: vous désirez boire? Oui, lui dit sa sœur, du jus d'orange. Nicolas demande: et vous aussi? Oui, merci. Et il les sert. complètement ébloui par la jeune fille et est prêt à tout pour faire le film. Il prévient Frédéric. J'ai trouvé la jeune fille, elle est formidable. Elle lui dit de venir le lendemain pour les essais. Les essais se font chez un photographe dans un studio, mais avec une caméra. On fait marcher la jeune fille, rire, asseoir, parler seul avec Frédéric. Nicolas est satisfait et ému. Frédéric, lui aussi, la trouve très belle. Après le tournage et la sortie des studios, Frédéric demande à la jeune fille. Vous habitez loin? Non? Vous vivez seul? Géry, elle lui dit. Je sais où vous voulez en venir. Vous êtes gentil, mais j'aime mieux que nous la restions comme ça, bons amis. Frédéric lui dit. Bon, bon, ça va, ça va. Ne vous fâchez pas? Il lui dit. Oh, surtout pas. D'ailleurs, comment peut-on se fâcher avec une personne comme vous? Elle sourit. Allez, je vous quitte. Et elle le quitte. Nicolas va vers Frédéric et lui demande. Que se passe-t-il? Frédéric lui répond. Oh, rien. Elle est très bien, très bien. Mais elle ne veut pas que je la drague. Nicolas, dès qu'il a vu Rose, il n'a plus envie de tourner son scénario, mais de reprendre de ses vieilles histoires, parce que l'héroïne fait penser à Rose. C'est le monde de Claire. Mais là, il est obligé de transformer son histoire, puisque le personnage principal est un homme de 30 ans, pas très beau. Là, ce sera un jeune homme et beau. Malgré lui, il a de la tristesse à transformer cette histoire. Il a l'impression que ce n'est plus une histoire. Et malgré que ce soit pour Rose, il le fait de mauvaise grâce. Il se dit que le jour où il trouvera les comédiens adéquats, il le refera. Le tournage se fera de chez lui, dans son appartement. Il en fera deux équipes réduites. À part les deux personnages principaux, il y aura un autre comédien, deux figurants, pour faire des ménageurs et une dizaine de jeunes pour la soirée. Mini budget. Le tournage se passe sans quelques petites tensions, car Frédéric et Nicolas sont sous le charme de la jeune fille. Elle dédaigne Frédéric et semble être plus attirée par Nicolas. Elle lui envoie des œillades, lui sourit, accepte de boire un verre après le tournage. Frédéric le voit et cela l'agace. Un soir, après la journée de travail, de tournage plutôt, toute l'équipe mange dans un petit restaurant du centre-ville. Nicolas est assis à côté de Rose qui semble resplendir de beauté et de joie. Frédéric est assis en face d'eux. Ils voient pendant le repas Nicolas et Rose rire ensemble. Nicolas lui parlait à l'oreille. Cela agace Frédéric. Il en est triste, envie de pleurer. Tout à coup, après avoir vu un énorme rire et chuchotement de Nicolas à l'oreille de Rose, il se lève sans rien dire et s'en va. Sorti du restaurant, Nicolas regarde tout le monde et demande « Oui, Frédéric ?» Rose lui dit « Il me semble l'avoir vu partir avant la fin du repas. » Nicolas demande « Mais pourquoi ?» Rose lui dit « Il devait être fatigué, il a dû rentrer chez lui. » Et ils s'en vont chez eux. Nicolas, avant d'entrer chez lui, va sonner chez Frédéric. La porte reste close. Il panique. Il se dit qu'il se passe quelque chose.
Comme il a laissé, il ouvre la porte. Frédéric. Frédéric, il regarde de partout. Frédéric, Frédéric, il n'est pas là. Alors il sort de l'appartement. L'appartement d'à côté s'est ouvert.
Une vieille femme à cheveux gris et robe de chambre lui dit « Il n'est pas encore rentré ce soir. Comment le savez-vous? Parce que lorsqu'il rentre, le bruit de sa serrure me réveille. » « Bien, merci madame. » Une fois dehors, Nicolas se demande où il peut être. Il décide de le chercher et téléphone aux autres membres de l'équipe d'en faire autant. Rose court les rues avec lui. Elle lui dit c'est ridicule de paniquer et peut-être venu finir la soirée. Ailleurs, non, quelque chose me dit qu'il lui arrivait quelque chose. Durant toute la nuit, l'on court les rues, dans les bars, boîte. Rose est restée près de son immeuble, on ne sait jamais s'il revenait. Nicolas, épuisé, entre chez lui. Il se demande pourquoi il a disparu comme ça. une heure après s'être couché. Le téléphone a sonné. Il répond.
Allô, c'est Rose. Je sais où il est. Un voisin de palier l'a vu cette nuit entrer dans une église. Et il ne l'a pas vu en ressortir.
Quelle église ?
Celle qui est à 900 mètres de chez lui.
Bien, j'y vais, elle lui dit.
C'est idiot. Il sortira bien tout seul, s'il a envie de prier.
Non, c'est pas son genre.
Je vais voir. Toi, rentre.
Bien, je rentre.
À tout à l'heure pour le tournage.
Nicolas court à l'église et entre. Enfin, il voit Frédéric assis sur un banc. Il s'assoit à côté de lui. Frédéric ne le regarde pas. Nicolas lui dit,
« Qu'est-ce que tu fais ici ?»
Frédéric lui répond, « J'ai réfléchi, je veux me faire moine. » Nicolas soupire et lui dit, « T'es complètement fou, c'est pas une vie pour toi. »
Frédéric hausse les épaules.
Nicolas continue, « Il n'y a que le cinéma qui est bon pour toi, parce que tu peux passer d'une vie à l'autre, c'est mieux que la vraie vie. »
Frédéric lui dit, « J'aime Rose. »
Nicolas hausse ses épaules et lui dit, « Tu es fou, tu crois aimer une femme, mais en réalité tu aimes son image. Tu la vois à travers le film. Tu seras déçu dans la réalité. La jeune fille ne peut être qu'une bonne amie, camarade, mais c'est tout. »
Frédéric lui dit, « Qu'est-ce que tu en sais ?»
Nicolas lui répond, « Elle ne s'habille pas du tout comme dans les films. Elle ne vit pas comme ça. C'est une image que tu aimes. »
De toute façon, il n'y a qu'au cinéma que l'on voit de belles filles, vraiment de belles filles.
Dans la vie, elles ne sont pas aussi jolies, n'ont pas d'aussi joli corps, de beaux cheveux, de tenues sexy. Elles ne se laissent pas déshabiller dans les ascenseurs ou les taxis. D'ailleurs, une fois qu'elles sont déshabillées, elles semblent très quelconques. Il n'y a qu'au cinéma où l'on fait l'amour sans se souiller de sperme, transpirer et après être frais et en forme. Où la femme est toujours dessus l'homme. Ça, c'est un truc pour pouvoir mieux voir la femme à l'écran et abaisser l'homme, car l'homme devient objet. Cette façon de faire l'amour dans la réalité doit beaucoup frustrer les hommes, car durant l'acte, il y a des difficultés à toucher le corps de la femme. Au cinéma, cela rend heureux l'homme.
Frédéric hausse les épaules.
Nicolas continue. On ne peut pas demander à la réalité d'être comme au cinéma. Tu veux devenir moine à cause des images que le cinéma a véhiculées. Et dans la réalité, la vie d'un moine est triste, monotone. Il ne se passe rien.
Frédéric ne dit rien.
Nicolas lui met la main sur l'épaule et lui dit, « Allez, viens, on continue le film. » Et Frédéric le suit.
Et le film reprend. Frédéric se comporte normalement, mais on ne parle plus de cette nuit.
Le film est fini. Nicolas est satisfait.
À la fin du dernier jour de tournage, pendant la petite fête qui se fait pour la fin du tournage, la fête se passe dans l'appartement de Nicolas. Rose prend un part et lui dit,
Nicolas, vous plaisez beaucoup,
J'aimerais que nous nous revoyions. Et peut-être même plus. Vivre ensemble. Nicolas est très ému, lui répond. Je ne peux accepter, cela me touche beaucoup. Mais avant qu'il ne parte,
il va falloir opérer votre grand-père. On va lui mettre une pile. Son corps a besoin d'aide.
Est-ce grave?
Non, pas du tout. Il y a des tas de gens qui vivent avec une pile et vivent très bien, ces gens.
Le grand-père a été opéré. L'opération est réussie. Ce qui ne veut pas dire qu'il est sauvé. On dit opération réussie égale réussite technique, mais c'est tout.
Je suis déjà marié avec le cinéma.
Elle lui demande,
c'est vos derniers mots?
Oui.
Tant pis pour vous.
Pour moi. Et elle s'éloigne. Il a refusé aussi, c'est pour ne pas peiner Frédéric. Ou qu'il pense qu'il est trompé. La soirée se termine. Et tous s'en vont.
Young, I don't think so. What about him?
Bientôt, Nicolas va se sentir seul. Parce qu'il sera complètement seul.
Yes, that card you gave me from Jacques Pinel.
Oh, you went there?
This morning. Her name is Van der Besch. She's one of those rich women who lived all over the world and still give you the feeling that...
Petit à petit, les gens vont s'en aller. Une semaine plus tard, Nicolas commence le montage de son film. Le film est produit par le père de Martine et lui-même. Il fait le montage dans la salle de montage de la maison de production du père. Un soir, il est chez lui.
On a sonné. Il va ouvrir. C'est Frédéric.
Salut.
Entre.
Il entre.
Il le mène au salon. Le fait asseoir.
Tiens. Tais-toi dans un fauteuil.
Il s'assoit.
Frédéric dit, je pars faire un téléfilm en Normandie 3 mois.
Nicolas lui dit, c'est bon que tu travailles, il n'y a que le travail pour nous.
Qu'est-ce que c'est comme téléfilm?
Oh, c'est une espèce d'histoire où il y a une Madame Bovary et je serai son amant.
Nicolas lui dit, ne tombe pas amoureux de l'actrice. Sûrement pas. Elle a 15 ans de plus que moi. Se met une tonne de pommade pour paraître plus jeune.
Pendant mon absence, tu t'occuperas de mes plantes. Tu donneras à manger au chat.
D'accord. Et Nicolas ajoute.
Tu vas me manquer.
Moi aussi. Tu vas me manquer.
Nicolas dit. Je crois que le film va être bon.
Et, une heure plus tard, il est parti.
Frédéric est parti. Deux mois plus tard, le montage est fini. Avant que le montage soit fini, passait déjà dans les salles la bande-annonce. Dès la première semaine, le film a du succès. Nicolas est sauvé, il peut faire une carrière de cinéaste. Un matin, Nicolas reçoit un appel téléphonique.
Allô ? C'est ton grand-père. Il est tombé chez lui. Il a eu une attaque.
C'est grave ?
On ne sait pas.
Où est-il ?
À Grange Blanche, pavillon H.
Bien, je vais y aller tout de suite. Merci, papa. Tout excité, Nicolas entre au pavillon H. À l'accueil, il demande où se trouve son grand-père. À une femme.
Chambre 728, deuxième étage.
Il y va, excité, essoufflé.
Il est entré dans la chambre. Le grand-père est au lit, conscient. Il s'approche de lui.
Bonjour grand-père. Il l'embrasse.
Bonjour mon grand.
Le grand-père semble bien. Il a la peau fraîche et lisse. Comment vas-tu grand-père?
Ça va. Cette nuit je me suis levé pour aller faire pipi. Et je suis tombé dans le couloir. C'est la femme de ménage qui m'a trouvé.
Entre sans frapper, une infirmière, grande forte, dans les 40 ans, cheveux noirs, elle s'avance vers le grand-père avec un récipient d'eau, du savon, un gant et une serviette.
C'est l'heure de votre toilette, grand-père.
Elle le soulève, déplace la couverture,
et là, Nicolas voit.
Comme la chemise de nuit ne va pas jusqu'en bas, les jambes nues, le ventre, le sexe, les poils blancs, la peau blanche et lisse. Cette vue lui donne chaud à la tête et il tourne de l'œil. C'est certainement l'émotion. Certainement l'émotion, la honte de voir son grand-père, de voir son intimité. L'infirmière vole au secours et le fait asseoir pour lui donner un sucre. Son grand-père le regarde d'une drôle de façon. Nicolas a l'impression qu'il a compris pourquoi il a eu son malaise et semble vouloir lui dire.
Je suis si laid que ça.
L'infirmière lui dit, avant qu'il ne parte,
il va falloir opérer votre grand-père. On va lui mettre une pile. Son corps a besoin d'aide.
Est-ce grave?
Non, pas du tout. Il y a des tas de gens qui vivent avec une pile et vivent très bien, ces gens.
Le grand-père a été opéré. L'opération est réussie. Ce qui ne veut pas dire qu'il est sauvé. On dit opération réussie égale
réussite technique, mais c'est tout.
Benoît va voir son père.
Bonjour père.
Bonjour fils.
Il trouve que son père a le nez pincé, ce qui signifie que la mort est là, demande à son père.
Où veux-tu être enterré ?
Le père le regarde surpris et lui dit
« Je vais mourir. »
« Oui. »
Il ne se sentait pas mourir.
Le père le regarde surpris et lui dit « Je vais mourir. »
« Oui. »
Il ne se sentait pas mourir. Cela lui a donné un choc. Il a pris la température, due à l'opération, à 97 ans. La nuit du jour où Nicolas et Benoît sont venus le voir, il meurt. Si son père ne lui avait pas dit qu'il s'en allait tout doucement, il ne s'en serait pas rendu compte. Nicolas souffre de cette mort. Il refuse de voir le corps de son grand-père. Grande tristesse pour l'enterrement. La vie reprend. La famille décide de ne pas porter de deuil à cause des affaires. Un soir, sa sœur vient le voir. Après avoir pris le repas ensemble, ils sont allés au salon pour parler un peu. Ils sont tous deux assis dans un fauteuil.
Nicolas lui dit « Je mène une drôle de vie. Je n'ai pas de vie privée. Je vis seul, sans amis, ni femme. À part travailler, je ne fais rien. Rien ne me passionne. Par le cinéma, je n'aime pas les voyages, les fêtes, sortir au restaurant ou en boîte, au Canada. Pour ce qui est de ma vie sentimentale, rien, rien de rien. Personne ne m'aime vraiment. Je suis passé dans ma vie comme ça. Je vais vivre dans une maison vide, sans âme, seul. Rentrer ici après mon travail, seul. Remarque, c'est de ma faute. J'aurais dû accepter l'amour de Martine. Mais cela me gênait, car ma vie professionnelle dépendait trop de notre entente. Je me serais senti enchaîné. Oui, enchaîné.
Il se sert un verre de bourbon.
Tu en veux, toi ?
Non, merci.
Elle lui dit, tu sais, tu n'es pas le seul à penser que sa vie est ratée. Regarde la mienne. Rien, rien. Même pas une petite liaison comme ça. Je crois que je vais finir vieille fille. Pourtant, je ne suis pas plus bête qu'une autre.
Nous sommes deux solitudes. Si tu veux, je peux vivre avec toi ici. Nicolas lui dit, merci. Je crois que ça ne marcherait pas. Nous sommes trop semblables. Puis, un frère et une sœur qui vivent ensemble, ce n'est pas bon.
Un après-midi, Nicolas chez ses parents. Il est au salon à prendre le thé avec son père.
La porte du salon s'est ouverte.
Et Nicolas voit apparaître son frère Denis. Il est ébloui par la beauté de l'enfant qui a 11 ans maintenant et en 6e. L'enfant s'approche d'eux avec une grâce exquise, habillé d'un pull blanc et d'un pantalon marine. Il fait plus grand que son âge, cheveux châtains épais, regard mélancolique, petit nez, grands yeux bleus, mince de corps. Nicolas le trouve délicieux. C'est mon petit frère Denis, comme tu as grandi et embelli. Et oui, le petit frère grandit. Bonjour père. Il embrasse son père et s'assoit sur le rebord du fauteuil du père. Se penche pour prendre un gâteau sec. Nicolas lui demande, ça marche l'école? Denis hausse ses épaules et lui dit, oui, j'apprends facilement parce que j'ai beaucoup de mémoire, mais j'aime mieux travailler seul dans ma chambre. Tu as des amis? Oui, un peu. Je n'aime pas tellement le sport, comme la plupart des élèves de ma classe aiment ça. Nicolas lui dit,
il faudra que tu viennes me voir.
Hein? Il faudra venir me voir de temps en temps, que nous passions une journée ensemble. Tu es mon frère, je ne te connais même pas.
Denis lui répond,
oui, je sais bien, mais je ne sais pas, je ne savais pas, parce que je n'osais pas venir. Tu es un homme, tu sais, et je me disais que tu devais être très pris.
Nicolas lui dit, avec toi, je ne serai jamais un homme. Tu es mon frère.
Je te promets, quand tu viens, de toujours te recevoir, de bien te recevoir. Et tu peux venir quand tu veux. Tiens, si tu veux être libre, viens me voir jeudi matin, à partir de 9h.
Denis est heureux.
Merci, je viendrai, oui. Ça me fera très plaisir.
Le père lui dit, et alors, tu ne demandes pas la permission?
Denis lui dit, tu veux, papa?
Le père sourit et dit, bien sûr. Je suis enchanté que mes enfants s'entendent bien.
Il embrasse son fils sur la joue et lui dit,
et dit à Nicolas, je suis satisfait de lui, il est gentil, il travaille bien. Un ange, un vrai ange. Mais j'ai peur pour l'avenir. Lorsqu'il va nous faire ses premières crises.
Denis hausse ses épaules et lui dit, vous m'aiderez à affronter mes troubles d'adolescent?
Le père le regarde et lui dit, qui t'a parlé de ça?
Denis dit, je lis beaucoup, tu sais. Et jeudi, Denis va chez Nicolas. Ils passent la journée ensemble, prennent le repas, vont au cinéma, se promènent dans les environs de Lyon, à la campagne. Denis aime la nature et aimerait être botaniste. Nicolas est très sensible à la beauté de son frère. Il en est même ému. Certains jeudis, lorsqu'il pleut, il passe la journée chez Nicolas. Lise écoute des disques où Denis aide son frère à faire des rangements.
un après-midi que Denis se promène avec Nicolas dans la rue, un homme grand mec, cheveux noirs, en passant à côté de Denis, le bouscule. Oh ! Le fait tomber. Il continue son chemin sans excuser. Pendant que Denis se relève, Nicolas rattrape l'homme par le bras et lui crie.
Espèce de salaud, tu devrais au moins t'excuser
si tu n'as pas fait exprès. Denis dit à son frère.
Laisse, ce n'est rien.
Nicolas lâche l'homme qui s'en va et demande.
Pourquoi ?
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 10e partie, production mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.